Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous, amis auditrices et auditeurs, et bienvenue dans ce 12e numéro de C'est la faute à la manette. Et vous savez quoi ? On est content de vous retrouver. Est-ce que vous êtes contents, messieurs ?
Oui.
Oui.
C'est bien, quelle ambiance. Cette semaine, nous voyagerons dans l'horreur et nous exposerons les membres de nos ennemis fraîchement découpés à la vue de tous, car nous parlons de Dead Space. Vous connaissez Dead Space ?
Oui,
c'est
oui.
Bien, vous êtes sur la bonne émission, c'est parfait. En face de moi, du coup, il a été contacté par Bethesda suite à son test de la dernière fois. Il vient de nous annoncer fièrement qu'il développe avec eux Fallout 5. C'est Tom. Salut Tom, comment ça va ?
Salut Julien, salut tout le monde, ça va bien ?
Alors, ce Fallout 5, il va être comment ?
Alors, il va être vraiment, vraiment excellent, avec un gros focus sur l'histoire comme le 4.
D'accord, ok, ça a l'air super. Alors, à ma droite également, il ressemble à un candidat de Face Off, je te montrerai la photo après. Il a liké la moitié des événements sur Facebook, c'est Guillaume, salut Guillaume.
Bonjour à tous, ce n'est pas ma faute, c'est à cause de mon travail que je like les événements, ce n'est pas moi. Voilà, mais ça va sinon.
D'accord. Alors également, il signe son retour et sa motivation est égale à son débit de parole, soit environ 1267%. C'est Ferdi. Salut Ferdi, comment ça va ?
Ça va très bien.
Et tu es tombé à 5% maintenant. C'est super. Alors, cette semaine, un petit programme, un peu moins chargé que les autres fois, mais un bon programme quand même. On reviendra donc sur Dead Space, un survival horror sorti sur PS3, Xbox 360 et PC, et qui a permis de lancer le survival horror dans le 21e siècle. Et c'est aussi un jeu Electronic Arts. Ce sera le deuxième à la suite, ça va, c'est incroyable.
Attention, c'est même un bon jeu Electronic Arts.
C'est un deuxième bon jeu
Electronic Arts. Rien ne va plus.
C'est fou. Alors, on aura également les spin news sur fond de musique de Super Hexagone, c'est bien ça Tom ?
Tout à fait.
Mais également la rubrique du professeur Gorpheus qui vous parlera de l'E3 et des AAA. Donc apparemment il a décidé de nous embêter jusqu'au bout. On aura également le test du fameux Dark Souls 3 par bien sûr notre PCiste Tom.
Oui, tout à fait.
Et le test coup de gueule de Guillaume sur Just Cause 3.
Oui, coup de gueule, oui. Oui.
Est-ce que ça va saigner pendant ce test ?
J'espère pas que... J'espère un tout petit peu vu que c'est quand même Rico Rodriguez, mais pas trop non plus.
D'accord. Ensuite, donc, on fera bien sûr le débat et le quiz de cette semaine vous sera présenté par Tom et Cochonou. Ah non, juste Tom.
Juste Tom.
Juste Tom. Ça. Bon, bah maintenant, est-ce que tout le monde est prêt?
Oui,
on est prêt.
Place
on est prêt.
Aux news.
Ça marche, donc place aux spin news. Donc je vous rappelle les règles pour les spin news. Je vous dis une news. Vous devez me dire si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça nul ou si vous vous en battez les couilles. Voilà, c'est très simple.
On s'en bat les fesses.
Vous êtes prêts? Non, c'est parti. Allez.
C'est pas poli.
Alors, Dark Souls, le jeu de plateau, a été dévoilé.
Oui.
Il a obtenu 1 328 900 livres au moment où j'ai rédigé cette news sur 50 000 livres demandés.
Non, je m'en fous.
Tu t'en fous?
Moi complètement pas. Si tu as dit Dark Souls au début, je ne peux
pas.
Mais
je vois pas le principe. Genre, qu'est-ce que tu veux faire dans un jeu de plateau Dark Souls?
Il y a des super pions et je crois qu'il y a des mini hachettes pour te couper les mains.
Tu peux tuer en vrai les joueurs.
Voilà. Ensuite, Ratchet & Clank, le film, n'attire pas les foules.
Sans déconner.
Sans déconner.
Je suis ravi. Ça, c'est pour avoir pris Squeezie à la place du vrai doubleur
très
des
bien.
Jeux originaux.
Ouais.
Est-ce que... Alors moi, j'hésite entre vraiment je m'en fous et c'est quand même un petit peu triste parce que les jeux sont bien. Mais on va quand même partir sur je m'en fous.
Très bien.
À cause de Squeezie, ouais, c'est ça. Moi, c'est bien fait pour Squeezie, John Rashid et Kevin Lerer Jaune, même si j'apprécie le travail qu'ils peuvent faire, eux.
D'accord.
Mais ils n'avaient pas à être là-dedans.
Ok. Alors, une news sur un jeu qu'on n'attendait plus. Tekken Cross Street Fighter n'est plus en développement actuellement.
C'est un peu triste. Les premiers screens donnaient envie.
D'accord.
Voilà.
Moi, j'ai jamais aimé Tekken et j'aime vraiment Street Fighter. Alors, cet enfant bâtard, je suis content qu'il ait été avorté.
Très bien, Guillaume.
Je joue pas trop à ces jeux-là, donc je m'en fous.
D'accord. Ensuite, Microsoft stoppe la production de la Xbox 360 très bientôt.
Bon, c'est fini de toute façon.
C'est triste
il est
quand même.
Ça fait quoi? Ça fait 12 ans?
Ça fait 12 ans,
ça fait
mais
ça m'intéresse.
C'est quand même une des meilleures consoles
oui,
de la
voilà,
génération
on peut
précédente.
Quand même, voilà, lui dire.
On peut saluer, on peut lui dire.
Mais j'ai envie de dire, c'est bien que du coup, la Xbox One fasse la rétrocompatibilité, qu'on continue à préserver la mémoire de cette console.
De toute façon, c'est fin de production, donc il doit y avoir quoi? 100 millions d'unités.
Mais la PS3 est toujours produite.
Oui, mais la PS3, on n'en parle pas. Je veux dire, elle avait déjà un an de retard, alors elle peut s'arrêter un an plus tard.
C'est vrai, c'est vrai. Star Fox Zero est une catastrophe, son spin-off Star Fox Guard, lui, est bien sympa, Guillaume peut le confirmer.
Ouais.
C'est quoi Star Fox Guard, s'il vous plaît?
Star Fox Guard, c'est un
Tower Defense,
c'est un tower defense qui se joue à la mablette et c'est vachement rigolo à
d'accord.
plusieurs.
C'est plutôt agréable.
Alors moi, je suis très déçu que Star Fox Zero soit pas bien, parce que c'est quand même un Star Fox. Et,
Star Fox
64 était super, Star Wing était
super.
NES,
ouais.
Donc bon, ça fait un peu chier quand
c'est
même.
Triste.
Ouais. Et puis les persos, l'univers est trop cool. Donc,
oui, voilà.
Par contre, peut-être coup de gueule sur Star Fox Guard, les doublages des héros sont nuls.
Ah, sont horribles.
C'est des voix d'enfants, c'est affreux.
Ils n'ont pas gardé les bruitages d'animaux.
Non, c'est plus des bruits d'héros, c'est des vrais doublages français maintenant.
Merci, tu nous as aidé.
Ah, merci, c'est super bien.
En fait, si pour l'anecdote, sur N64, on devait nous aussi avoir des vrais doublages, sauf qu'ils ont été enlevés de la version européenne.
Et ben, ils ont bien fait.
Et que pour regarder les bobobobobobob.
C'est trop bien ça.
Mais voilà, pour moi, en fait, c'est aussi devenu l'identité de la série. Et quand j'ai vu qu'il y avait des doublages, en fait, non seulement sur la version US de N64 et sur l'autre, j'ai pleuré.
D'accord. Ok. Alors, une news d'importance. Persona 5, rendez-vous pour le live le 5 mai à 14h30 en France.
Alors moi, j'en attends énormément, mais moi, j'attends de savoir juste une date de
moi
sortie
aussi,
qui serait pas en 2030.
Ça, ce serait bien.
La même chose, c'est très bien.
D'accord.
Vive Persona.
C'est intéressant et je rajouterais du coup que vendredi, par contre, il y aura aussi le live de EA pour Battlefield 2, probablement 5.
Très bien.
Aussi, voilà.
Et bah, tout le monde le notera, alors c'est parfait. La gamme Wii U Select est disponible avec des titres comme Zelda Wind Waker, Donkey Kong Country, Returns, Tropical Freeze, je sais plus, c'est tous les mêmes. Et New Super Mario Bros. U a quelque chose comme 24,99€ pièce.
C'est très bien, c'est des bons jeux. Donc
c'est bien.
Alors pour 24€, on a tous ces jeux-là ou c'est
non,
un jeu
seul.
Qui coûte ce prix-là?
Bah, un seul, on est sur console.
C'est une gamme Platinum.
C'est une gamme Platinum.
D'accord, je m'en fous.
D'accord, Guillaume.
Avant, je crois que la gamme Platinum Wii c'était 19€.
Non,
donc,
j'ai vérifié, c'est 25. C'est 25 aussi.
Ah bah bon, bah moi j'ai pas d'Wii U donc je m'en fous.
D'accord, bon. Alors la grosse news de cette semaine, c'était surtout la NX prévue pour mars 2017, mais qui ne sera pas présentée à l'E3.
Gros dommage.
C'est quand même con. Je suis un peu partagé sur cette news parce que bon, par exemple la Wii U, j'attendais vachement son annonce et au final il y a 3 jeux dessus donc bon. Ouais.
Effectivement.
Est-ce que la NX, je pense qu'ils ont laissé un peu passer leur chance pour ce coup-là donc je vais attendre.
J'ai l'impression qu'ils laissent trop planer le mystère en fait
ouais.
sur ce
console. Ouais, restons méfiants pour l'instant.
Alors que visiblement
je pense.
C'est une 3DS qu'on met sur un socle quoi. Bon, on va attendre.
Alors, pour faire suite à ça, Zelda Wii U décalé à un vague 2017, même plus mars 2017, hein, selon les dernières news, avec une version NX, elle, en mars 2017, et seule la version Wii U sera jouable à l'E3. Beaucoup d'infos d'un coup, mais...
Zelda, oui.
En gros, Zelda sur Wii U, c'est peut-être pas, et sur NX, ce sera en mars.
J'ai l'impression qu'on se fait un peu Star Citizener sur cette news.
c'est peut-être un jour, ouais, ça va être bien.
Peut-être. Des exemplaires de Uncharted 4 auraient été volés.
Oui, ça ne m'étonne pas. Je suis plutôt intéressé par cette news, mais ça ne m'étonne pas.
D'accord. Alors, la news que préférait Guillaume, du coup, Call of Duty Infinite Warfare se confirme à 80€ pour le jeu de base sans rien d'autre, tout nu.
Mais n'importe quoi.
Voilà. Ensuite, il y aura un remaster surprise de Modern Warfare 1 disponible uniquement avec, en pack avec le jeu.
Si tu payes 100€.
100$.
En dématérialisé, 100$.
Qu'est-ce qu'on pense? On passe à la suite, on n'en parle
gros
pas.
Coup de gueule.
Sinon, on va être méchant.
Hein. Gros coup de gueule, gros coup de gueule.
Alors, moi, je pense quand même, faut pas oublier que on fait pas un remake pour le proposer que dans une collector.
Je suis d'accord.
Voilà, un an plus tard, il sera dispo. À 40€.
Une news un peu particulière, FF11 s'offre un reboot sur smartphone et tablette sous Unreal Engine 4.
Trop cool.
FF11 est un très bon
MMO. Un très bon MMO.
Ouais. Bon, je vous recommande le 14, hein, qui est vraiment excellent.
Qui a subi la couleur de jouvence de sa vie et qui a été sauvé.
Ouais, effectivement.
Et je pense que ça pourrait être une nouvelle vie pour FF11, en tout cas.
C'est très bien.
Bah, FF11, lui, était bien dès le départ, quoi, donc c'est cool.
Exactement. Nintendo, Animal Crossing et Fire Emblem sont officialisés sur smartphone.
Non. Non mais arrêtez, stop.
Quoi, peut-être Fire Emblem à la limite.
C'est la politique de Nintendo là, trop.
Mais Fire Emblem,
Fire Emblem ça va. Imagine, t'as un héros et puis tu croises,
Ouais.
Tu croises d'autres, comme avec des fonctions comme Street Pass qui ne sont pas sur 3DS.
Ouais. Mais bon, c'est triste quand même.
Ouais,
tu peux faire revivre tes protagonistes pour seulement 4,99€.
C'est ça, bon. Ça serait cool.
Ce serait trop bien.
Ce serait énorme.
Alors, une news d'importance, Super Meat Boy sort sur Wii U le 12 mai.
Moi je suis content, ça veut dire que si Super Meat Boy pouvait être sur toutes les consoles de la Terre, ça serait très bien.
D'accord.
Ça serait vraiment excellent, je suis d'accord.
Ouais, j'attends la sortie GameCube et Super NES.
Allez-y, faites-le.
Ou Dreamcast.
Dreamcast.
Particulièrement bien.
Sur toutes les consoles.
Smartphone.
Lionhead est mort.
Bah depuis Fable
2. Moi ça me fait
complètement mort cette
fois. Exactement, c'est la réponse parfaite.
Depuis Fable 2.
Ça me fait pleurer quand même, moi j'aurais bien voulu voir un Fable 4 un jour.
Un vrai Fable.
Un vrai Fable 4.
Un vrai Fable 4, ça aurait été la killer app de la Xbox.
Ça aurait été le finish.
En étant un petit peu un gros con, un vrai Fable 2, hein, parce que Fable 2 c'était quand même l'ombre du premier, donc voilà, même si c'était un bon jeu.
D'accord, alors Fallout 4, le kit de création est enfin disponible.
C'est une très bonne nouvelle, on aura enfin un Fallout 4.
Alors Tom, je crois que c'est une très bonne nouvelle pour toi, Guillaume.
Ah, moi j'adore.
Ouais, bah ouais, c'est bien.
C'est bien.
Les PCistes pourront faire des choses avec le jeu et puis les consoles aussi. Enfin,
ouais, c'est ça qui est bien, c'est que.
Ça peut faire que du bien.
Le modding sur console, c'est une bonne chose.
C'est une bonne idée, on verra comment ça se fait, tout simplement. Tecmo Koei confirme travailler sur Enix, donc probablement pour un Hyrule Warriors, on suppose.
Oui,
d'accord, je vous sens emballé par la nuit,
On va préférer qu'ils disent Bethesda, travailler sur Enix, tu vois, des trucs un peu plus.
Ouais, des bons développeurs.
Faut pas déconner quand même. Le Kickstarter du FPS de John Romero est annulé. Il a pas gagné de thunes, quoi. 121 000$ récoltés sur 700 000.
Ah oui, alors on a demandé 700 000 sur Kickstarter, faut en avoir.
Ah, il faut en avoir.
Même si tu veux faire un nouveau Doom.
Même si tu t'appelles John Romero, c'est compliqué.
Avec des beaux cheveux, personne te suit.
Donc personne ne l'attendait ici de toute façon.
Je savais même pas qu'il demandait de l'argent.
De toute façon, moi j'étais même pas au courant que je suis pas mal Kickstarter. Donc.
Alors, une dernière news que j'ai trouvée au dernier moment, c'est Vred, donc des créateurs de Guacamele. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Sort sur PS Vita en exclusivité et c'est un jeu qui est très bon et nous ne sommes pas en 2014.
Oh, putain. Alors, la PS Vita faudrait vraiment arrêter, ça craint.
La PS Vita faudrait qu'ils ouvrent, qu'ils la donnent aux gens sur
PS. C'est le dernier jeu exclusif PS Vita quand même.
Je trouve que le film de la PS Vita c'était ce film sur la boxe de Clint Eastwood, comment il s'appelait?
Comment ça?
Mais si, ce film qui parle de boxe avec Clint Eastwood.
Ah, Million Dollar Baby.
En fait, la PS Vita c'est Million Dollar Baby. Le hardware. Au début, ça marchait bien. La PS Vita faisait des super bons matchs et maintenant, elle est sous assistance respiratoire. Il faudrait vraiment la débrancher, s'il vous plaît.
Oh, le spoil. Ce spoil du film.
D'accord. Et bah, voilà qui conclut les news. Est-ce que vous en aviez une à rajouter qui vous avait marqué cette semaine?
Non, rien de spécial.
C'est bon?
C'est à fait le tour.
Tout a l'air couvert. Bon, bah écoute, on se fait une première pause musicale, Guillaume.
Oui, tout à fait. Donc, on va s'écouter une musique de l'OST de Doom. Intitulé Angarmageddon, si je me trompe pas.
Ouais,
on se retrouve juste après dans C'est la faute à Manette. À tout de suite.
À tout de suite.
Donc on vient de s'écouter l'OST de Doom avec la musique Angamargeddon. Et on se met toujours sur C'est la faute à la main. Sur la faute. C'est la faute. Bug.
Alors pendant que Guillaume dessoule un petit peu, ne buvez pas, hein, c'est pas bien. Attention, 5 fruits et légumes par jour.
Buvez pas autant que notre chroniqueur Guillaume.
Voilà, c'est dangereux. On va passer du coup à un test. On va laisser Guillaume se reposer. On va commencer avec le test de Tom qui va nous parler d'un jeu pas très connu en ce moment. Il s'appelle Dark Souls 3.
Oui, alors c'est un peu un jeu indépendant. C'est un peu le Dark Souls du Dark Souls, comme dit la presse. Donc Dark Souls 3, le dernier donc de la trilogie de 5 jeux.
Voilà. Alors c'est sorti quand, c'est sorti sur quoi?
C'est sorti il y a pas longtemps, genre le 20 avril, quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais, un truc comme ça.
C'est sorti sur les consoles nouvelle génération, donc Xbox One et PS4, et sur PC et en simultané, s'il vous plaît. C'est un jeu fait par
From Software.
From Software, tout à fait, édité par Bandai Namco, si je ne m'abuse, et c'est vraiment de la balle. Je vous explique pourquoi. C'est un donc jeu d'action avec pas mal d'exploration. C'est un peu justement, c'est un peu un jeu qui, quand le Demon's Soul, le tout premier, est sorti, qui était un peu son propre genre. On déplace un personnage dans un univers médiéval fantastique bien crade, et on doit buter des monstres. Petit détail, il se trouve que la plupart des monstres sont très forts et que c'est un jeu d'une difficulté assez élevée. Pourquoi ? C'est pas parce que le jeu est injuste, en fait, c'est que c'est un jeu qui ne prend pas le joueur pour un con et qui ne vous prend pas par la main. C'est-à-dire que dans la plupart de la série des Souls, on vous explique les touches au début via un tutoriel avec juste des marques au sol, et ensuite vous vous démerdez avec le reste. C'est à vous de découvrir tous les autres tenants et aboutissants du jeu, soit via internet si vous êtes un faux, soit vous-même si vous êtes un vrai. Du coup donc, Dark Souls 3, très beau graphisme avec le moteur hérité donc de Bloodborne, qui était le jeu précédent donc de la franchise. Et gameplay, on va dire, raffiné pour avoir le plus possible des combats, on va dire, dynamiques, puisque c'était ça qu'on reprochait au deuxième jeu. Un jeu donc aussi qui a engendré donc toujours et encore plus de fanbase au fur et à mesure de ces éditions, et dont on est content de retrouver justement des petites touches de fanservice, mais de bons fanservice, comme par exemple des zones qu'on connaissait qui reviennent, des personnages qu'on connaissait, voilà, une difficulté à avoir par exemple l'emote phare du jeu, deux trois petits détails comme ça qui font toujours plaisir. Côté histoire, c'est un petit peu moins cryptique qu'avant. Le premier Dark Souls, c'est un petit peu comme la série Metroid. C'est des jeux où on découvre l'histoire en y jouant. On vous explique vraiment les prémices via une cinématique au début. Et ensuite, encore une fois, on ne vous prend pas par la main, quoi. Donc, il faut faire un petit peu ses propres théories, qu'elles soient vraies ou fausses, qui peuvent être validées ou invalidées par exemple une seule phrase d'un PNJ. Là, le 3, c'est un petit peu moins le cas, ce qui est agréable, mais pourra peut-être embêter certains puristes. Bon, moi, ce n'était pas mon cas. En tout cas, je sais que j'ai été un petit peu déçu au début par la rapidité de certains monstres. J'ai vraiment un problème par exemple avec le fait que tous les ennemis nous mettent une tête. tous les ennemis font au moins 2m30. Il y a très très peu de personnages normaux
humains, comme dans Bloodborne par exemple.
Alors justement, en fait, dans Bloodborne, tous les ennemis nous mettaient une tête aussi.
Oui, bon, non, pas tous quand même,
les trois quarts, on va dire. Ouais. Et là, en fait, on a vraiment un petit peu trop l'impression qu'il y a des assets qui ont été réutilisés pour ce Dark Souls, malgré le fait que c'est vraiment un excellent jeu, et c'est son jeu à part. C'est vraiment pas un Bloodborne 2. La variété des zones est vraiment agréable. Par contre, il y a toujours pas ce génie dans la construction qu'arrivait à atteindre Dark Souls 1. Même si les zones en elles-mêmes sont plutôt bien interconnectées, on a un petit peu un côté où on voit vraiment où vont être les raccourcis dès le départ. Je vous prends l'exemple d'une zone qui est une chapelle. On voit très bien, en fait, qu'il y a genre un hôtel avec évidemment plein de petites torches allumées. C'est très beau. Et une grosse porte à droite, une grosse porte à gauche, quand on essaie d'appuyer dessus, ne s'ouvre pas de ce côté. Ça nous dit, donc, on voit très bien qu'il va y avoir un raccourci qui va nous ramener là, ce qui donne un côté un peu redondant au final. J'aurais aimé 2-3 petites surprises où justement, comme dans Dark Souls premier du nom, je me disais, ah mais on arrive là, je me doutais pas du tout. D'accord. Que j'étais à cet endroit-là.
Donc, est-ce que ça lui donne un petit côté Super Mario?
Alors, vraiment pas. Toujours pas. point, point, point. Néanmoins, donc voilà, excellent jeu, je vous le recommande 100 fois. Ils ont rajouté, alors pour ceux qui connaissent un petit peu la série, qu'est-ce que ça rajoute réellement ? Ça rajoute des boss qui veulent dire quelque chose. C'était le cas de, donc, les meilleurs de la série en termes de boss, c'était surtout Demon's Souls et Dark Souls 1. Là, Dark Souls 3 se hisse au sommet avec des boss donc, qui ont tous des phases, qui sont tous intéressants et tous différents. Ce qui était vraiment voilà, un énorme défaut de Dark Souls 2. À côté de ça, on a le retour de la mana. Il se trouve qu'en fait, avant, la série des Souls, on lançait ses sorts avec juste un nombre d'utilisations limité. Là, on peut de nouveau faire recours à la mana, comme dans Demon's Souls, donc. Ce qui est plutôt agréable. On a un coup spécial pour toutes les armes, maintenant, qui consomment de la mana. Donc, même les builds de force pourront utiliser de la mana. Okay. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais qui font que l'expérience est plus agréable pour, on va dire, pour tous les joueurs.
D'accord. Alors, est-ce que tu le conseilles, du coup ?
Alors, je le conseille vraiment beaucoup. Je le conseille peut-être pas en premier épisode de la série.
D'accord.
Je conseillerais tout de même de commencer par Dark Souls 1.
D'accord.
Qui est pour lui, en fait, on va dire que Dark Souls 1, c'est vraiment un jeu dont on se rappellera dans 10 ans, alors que ses suites, peut-être un peu moins.
Ok. Ça vaut combien ?
Ça vaut, achetez-le sur Good Old Games à 33€.
Ok, sinon une cinquantaine d'euros sur console.
Plutôt 70€ sur console.
D'accord.
Ouais. Si vous arrivez à choper la collector, allez-y, il y a un artbook format A4 dedans.
Ce qui un est vrai
assez, qui voilà, est disponible sur Auchan en ce moment à 120€, je crois.
Voilà, donc allez-y, foncez quoi.
D'accord.
Si elle est assez introuvable, donc si elle est dispo à Auchan, allez-y.
Très bien.
Si vous avez des questions.
Écoute, non, ça m'avait l'air plutôt clair de mon côté.
Et bah, impeccable. On passe direct à Just Cause 3, Guillaume.
Ça va.
Oui, allez, vas-y. On passe à Just Cause 3.
Ça va mieux, Guillaume.
Oui, j'arrive à parler, ça va.
Ça va. Alors, vas-y, parle-nous de Just Cause 3.
Si je me remets à bugger,
on te retiendra.
Ok, alors, bah, Just Cause 3, bah, c'est le troisième épisode de la série Just Cause, pas le cinquième.
Incroyable.
Ouais, Dark Souls 3, c'était le cinquième. Donc là, il y a un peu plus de logique, s'il te plaît. Donc c'est toujours le jeu fait par Avalanche Studio et édité par Square Enix. Coucou les copains Square Enix, hélas. Parce qu'ils font de la merde ces derniers temps, bref. alors moi, j'avais pas fait le 1, je suis passé directement à Just Cause 2, que j'avais trouvé que c'était un des meilleurs jeux de Xbox 360 et de PS3, parce que tout simplement il était magnifique. Il y avait une map assez gigantesque, beaucoup de contenu, beaucoup d'améliorations par rapport au 1 même, en voyant après. Donc on incarnait Rico Rodriguez qui devait enlever une dictature d'une certaine île, je sais plus quoi. Et là le 3, eh ben, on est Rico Rodriguez qui doit retourner chez lui à la République méditerranéenne de Medici pour enlever la dictature. Donc un scénario d'un copier-coller magnifique.
Et aller chercher du lait aussi je crois, mais c'est dans le scénario.
Ah j'ai pas encore fait peut-être.
Ah d'accord, c'est vrai. Désolé je t'ai spoilé
et
la fin.
Ah. Je suis triste. Et du coup, donc vous vous retrouvez à faire des missions assez répétitives et redondantes pendant plusieurs heures de jeu, même si c'était déjà le cas dans le 2 où on avait en fait ce côté fun de tout faire exploser parce qu'on avait des décors semi-destructibles avec des parties donc destructibles et d'autres non. Et là, on se retrouve en fait avec un jeu, en tout cas sur console. Alors, je précisais du coup que le 2 était magnifique sur 360 autant que sur PC et PS3, qu'il était bien optimisé, qu'il était vraiment, vraiment très beau pour l'époque. Et là, on se retrouve avec un Just Cause 3, mais sur console moins joli que le 2, je dirais même, qui rame. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une ou deux explosions, le jeu passe à moins de 20 FPS. Ce qui est vraiment, vraiment très décevant. C'est-à-dire qu'on, d'un coup, on voit Rico tirer un grappin au ralenti. Ce qui est vraiment mais horrible, mais ça ne donne pas du tout envie de jouer. Les temps de chargement sont super longs, donc vous venez de mourir, ben vous attendez, ça ne vous donne pas envie de relancer. Donc vous me disiez que sur PC, il n'y avait pas ce problème, tant mieux. Mais du coup, grosse tristesse, alors que le jeu est, je trouve, moins beau que le 2.
D'accord, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'effort là pour toi.
C'est-à-dire qu'il y a un problème d'affichage de texture qui arrive genre des fois... 15 vraies secondes après qu'on ait devant à ça d'une texture, à 1 mm d'une texture, 15 secondes pour attendre pour que la texture ça arrive. Souvent ça m'arrivait par exemple, j'allais sur un truc à détruire, genre je sais pas, une tour radio, la texture mettait vraiment 15-20 secondes à s'afficher alors qu'on était devant quoi.
C'est d'autant plus triste que c'est un jeu assez rapide donc on reste rarement 15 secondes devant la même texture.
Et donc bah ouais, pour l'instant, enfin moi j'ai dû jouer déjà, je dirais. 4-5 heures, parce que vraiment, alors que le 2, je l'avais fini, j'avais fait toutes les missions avec toutes les factions, enfin tout ça, et là, le jeu me donne pas envie d'avancer, même si ça reste toujours fun. Il y a quelques améliorations, par exemple, le grappin, maintenant on peut accrocher des objets
entre eux.
Entre eux, ouais.
Alors qu'avant, on était obligé de les accrocher à nous.
Ouais.
Mais aussi d'autres choses, par exemple, moins cool, c'est que avant on pouvait, par exemple, quand on était dans une voiture ou dans un véhicule, appuyer sur une touche pour qu'il nous mette sur le véhicule. On n'a plus cette fonctionnalité, on a quelques fonctionnalités enlevées. Ou par exemple, des coups au corps à corps. Avant, Rico donnait des coups de grappin, ce qui était stylé, maintenant c'est des coups d'épaule.
Oui, c'est vrai, tiens.
Ce qui du coup fait totalement nul. Et pourquoi avoir changé ça alors que c'était bien plus stylé, les coups de grappin? Et donc voilà, enfin, je trouve que le jeu manque de finition. Moi, j'attendrai que... Je me dis qu'il est sorti déjà depuis décembre, il n'est toujours pas patché pour les versions console. Il est sorti le 1er décembre 2015 quand même. Et le jeu est buggé, mais à mort. Ils ont commencé à sortir des DLC. Ce qu'il faudrait, c'est déjà commencer par le patcher. Donc voilà, moi, j'ai plutôt une mauvaise expérience sur le 3 sur console. Je vous recommanderais plutôt de le prendre sur PC, et même encore mieux, si vous n'avez pas fait le 2, je vous le recommande sur PC, parce que la communauté Steam avait fait un mode multijoueur, vous pouviez être plus de 200, je crois, sur la même map.
C'est pas mal.
Et en plus, ils avaient tout modifié, c'est-à-dire tu pouvais changer ton skin de personnage, donc tu pouvais être un militaire ou n'importe quoi, et t'avais un mode nitro sur tous les véhicules, et du coup, tu pouvais t'amuser à faire n'importe quoi, à coller des avions avec d'autres avions et les faire partir avec des potes. C'était vraiment fun.
D'accord.
Donc je vous le recommande, il doit rien coûter.
Sur PC, il doit coûter
2-3 euros,
même pas.
Voilà, alors, et le mode multi est gratos.
Du coup, Just Cause 3, combien de têtes de Rico sur 10
Sur console, je dirais. 5 têtes de Rico, parce que j'aime vraiment Just Cause 2 et que du coup je peux quand même prendre du plaisir à y jouer même si ça lag. Voilà.
D'accord, et bah écoute, donc c'est ce qui nous amène à la fin des tests. On va accueillir l'autre là qui attend derrière la porte.
Tout à fait.
Du coup, moi je pars vous combler un petit peu le temps que l'autre arrive. Je crois que t'as un générique à lancer.
Ouais.
Donc je vous dis à tout à l'heure, les gars.
À tout à l'heure.
Ça va, ben... Allez.
Et voilà.
Salut professeur.
Bonjour.
Salut à tous et bienvenue dans Professeur Gorpheus, la rubrique qui vous rend plus intelligent. Alors, pour tout vous dire, j'étais à un colloque dernièrement où on vous testait, vous Guillaume, pour extraire ce qu'on appelle la chance de votre corps.
Donc, ah ouais.
Donc, on s'est aperçu que vous aviez beaucoup de chance ces derniers temps.
Ces derniers temps, peut-être pas. Jules, vous...
Il paraît qu'un pigeon vous a chié sur la tête.
Jules était présent, un pigeon m'a fait caca dessus.
Donc pour l'instant on va attendre un petit peu, mais est-ce que quand ça va revenir, est-ce qu'on pourrait avoir des poils de votre anatomie? C'est scientifique, hein.
Ouais, moi je pensais que c'était un aspect liquide, ma chance, mais bon.
J'ai des ciseaux si vous voulez, on peut le faire tout de suite ou...
Non, je veux conserver ma précieuse barbe.
On attend la fin de la rubrique,
ouais,
très bien. Alors cette semaine on va parler de quoi? Vous vous demandez forcément de quoi on va parler. Oui,
oui,
de quoi on va
oui.
parler
de quoi on va
professeur,
parler, professeur,
qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors ce soir on va parler d'un sujet qui va bientôt nous intéresser, c'est l'E3. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'E3. Alors l'E3, ou Electronic Entertainment Expo, qu'on pourrait traduire chez nous par l'exposition du divertissement électronique, c'est quand même magnifique, on dirait une foire à la saucisse.
C'est magnifique.
Sublime.
Est un des plus grands salons du jeu vidéo au monde, où sont présentés à la fois pour les professionnels du milieu ainsi que pour le public des titres pour l'année vidéoludique en cours ou des projets en développement. Voilà, donc ça c'est l'idée globale un petit peu de l'E3. Il se déroule chaque année vers juin-juillet, donc l'E3 fut un temps le salon le plus respecté et le plus riche en termes d'annonces et de surprises. Donc c'est l'occasion pour les grands constructeurs, les développeurs de nous présenter les futurs jeux et machines qui nous feront rêver ou pas du tout, tout simplement. Mmh. Est-ce que vous avez déjà des petites questions sur l'E3 avant que je continue?
Alors en parlant de présentation, professeur, tu nous parles de jeux bien ou mal présentés. Est-ce que tu aurais un exemple?
Oui, alors c'était exactement la suite que de mon test. Merci de voilà, merci.
Hein, incroyable,
c'est super. j'aurais un exemple qui m'avait marqué moi comme très mauvais E3. Je pense à cette E3 où Nintendo avait présenté Wii Music.
Oui.
Je pensais également à cette E3 où
Que tu parles de celui-là.
Où Nintendo nous a présenté la Wii U. Je pensais également à cette E3 où Nintendo nous a présenté Star Fox Zero.
Moi, je pensais aussi à cette E3 où Ubisoft a voulu la jouer la cool avec son espèce de présentatrice nulle à chier, c'est-à-dire l'année dernière.
Oui.
Où elle nous avait parlé par exemple de « Oh, vous êtes des geeks, vous aimez les licornes, vous aimez ça, vous allez adorer le dernier Trials. » Oh là là.
Quelle honte.
Et pourtant, on a regardé au labo, on a adoré, Jean-Roger l'a adoré, c'était trop bien. Enfin, c'est scientifique, quoi.
Un autre exemple, par exemple, c'est cette année où Microsoft nous a présenté Kinect avec Milo et des enfants qui jouaient dans la nature avec des petits tigres. C'était mignon, j'adore les enfants. Et cette année également où Sony nous a présenté Killzone 2.
Est-ce que tu pourrais raconter la fin de cette anecdote de Killzone 2, mon cher professeur, puisque c'est toujours agréable de cracher sur Sony.
Donc Sony cette année avait présenté le jeu incroyable qui était Killzone 2, un jeu visuellement parfait, visuellement tellement incroyable qu'on aurait cru un film d'animation. Et bah c'était un film d'animation et pas du tout le vrai jeu, puisque des PC tournaient derrière et faisaient tourner cette démo technique qui était d'un niveau incroyable et qui ne sera bien sûr jamais égalé. Puisque on ne le verra jamais sur PS3.
Effectivement.
Est-ce que je pourrais vous parler de bons exemples de l'E3, par exemple? Il y a par exemple le fameux One More Thing de Hideo Kojima ou d'autres présentateurs qui consiste à annoncer un dernier jeu surprise à la fin d'une conférence. Mmh. C'est devenu célèbre.
Mmh. Oui.
Le tatouage de GTA sur le bras de Peter Moore qui annonçait fièrement que GTA arrivait sur Xbox à l'époque. C'était une révolution. Mmh. Et également la présentation de Zelda Wii à l'époque où on pensait encore que ça allait être un très bon jeu. Voilà, est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête là comme ça?
Moi j'ai tout à chaque fois, il y a EA qui arrive à te montrer des jeux magnifiques ou Ubisoft, tu dis oh mon dieu, ça a l'air énorme! Oh Watch Dogs! Oh Battlefront! Oh The Division! Oh, il peut fermer une porte et à la fin t'es toujours.
Ah, c'est triste.
Et quand il
c'est
sort, triste. Ouin ouin.
La conférence de Sony où ils nous avaient fait sortir tous les trucs du Zelda's Guardians, FF7 Remake, etc. Celle-là elle était cool.
Et tous ces jeux que vous n'aurez pas en 2016.
Ouais, c'est ça, Shenmue 3, etc. Enfin, ils avaient sorti tout, ils avaient décidé de sortir.
C'est l'année dernière.
Et on en a aucun.
Shenmue 3 avec l'IA des PNJ qui vaut 2 millions d'euros. souvenez-vous, c'est absolument incroyable. Voilà, je pense que le 3, on peut refermer le dossier.
J'ai peut-être un tout petit exemple supplémentaire parce qu'on a pas mal craché sur Sony. J'aimerais bien cracher un peu sur Microsoft. Une fois n'est pas coutume. Quand ils nous ont annoncé un nouveau jeu Conquer. Est-ce que vous en avez?
Non.
Voilà. Ils nous ont annoncé un nouveau jeu Conquer, donc ils nous disent voilà, petit truc supplémentaire, on voit Conquer arriver, donc ce héros de la N64 que tout le monde a envie de voir revenir. Pour toi, Guillaume, c'est un peu comme Mr. Nuts,
en plus sale.
Tu ne pourras qu'aimer. Et on apprend qu'en fait, c'était un simple jeu à faire nous-mêmes sur Project Spark, le jeu dont personne n'a entendu parler.
Voilà, et beaucoup de gens ont pleuré d'ailleurs à ce moment-là.
Ah oui, moi,
premier,
mon âme s'est brisée.
Moi, le premier. J'étais mort de l'intérieur.
J'ai reposé ma part de pizza à ce moment-là. C'est vous dire.
C'était très dur. Alors, du coup, on va clore le 3. Je vais juste faire un petit aparté sur les AAA.
Oui.
Alors, le AAA, du coup, c'est un terme qui a été emprunté à la finance. Le AAA, on n'en voit plus beaucoup en France, puisqu'on est, je crois, plus que 2A en France. C'est ça, hein?
On est...
On a baissé.
AA+, je crois.
AA+, voilà. On dirait une taille de jean. C'est bizarre. Le AAA, du coup, est un terme de la finance qui a été reprise pour le jeu vidéo, désignant un jeu vidéo qui a coûté énormément d'argent, et c'est un peu le projet phare d'une société, le projet le plus ambitieux. En termes d'argent, en tout cas.
Fric.
Voilà. En gros, c'est un jeu sur lequel se repose une société pour engranger le plus d'argent possible, poussé par un marketing et une réalisation la plupart du temps, voilà, à la hauteur du projet ou de la chose qu'on essaye de nous vendre, pour pouvoir faire d'autres projets plus petits à côté et développer un petit peu, voilà, son activité. On peut citer par exemple la machine Halo pour Microsoft, Zelda pour Nintendo ou Uncharted pour Sony. Voilà, c'est un peu les trois têtes de gondole. Autrement dit, si un AAA se plante, l'entreprise risque également de se planter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Est-ce que vous voulez apporter des petites précisions ou je retourne couper les poils de Guillaume tout de suite?
Mais est-ce qu'un AAA est forcément synonyme de qualité?
Il y en a.
Alors,
oui et non.
Un AAA, c'est avant tout de l'argent. Le projet peut être de qualité, mais c'est avant tout, je pense, une grosse masse de fric.
Est-ce qu'on peut parler de citer un ou deux AAA qui ont fait couler leur société? Comme par exemple Kingdom of Amalur.
Ah oui, Kingdom of Amalur, qui aurait pu faire couler Electronic Arts.
Qui s'est contenté de faire couler son développeur.
C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. J'ai pas d'autres exemples en tête.
Homefront.
Brink.
Ah, Brink.
Brink, une horreur absolue et un gouffre sans fond. Et puis voilà.
D'accord.
Ce sera tout pour moi.
Merci professeur. Okay.
Merci professeur.
Guillaume, j'ai des poils à couper.
Non, stop.
D'accord, on verra après l'émission alors.
Ok, ça roule. À plus tard. Bon bah voilà, on raccueille Julien en attendant. On va se faire une pause musicale avant de passer au gros débat, je pense. On va s'écouter une petite musique de l'OST de Payday 2,
Payday,
intitulée Fusebox, et on se retrouve juste après dans C'est la faute à Manette.
À
tout de suite.
À toutes.
Toujours sur C'est la faute à la manette, on vient de s'écouter une musique de l'OST de Payday 2 intitulée Fusebox, et je vais laisser la parole à Ferdi qui va nous présenter
Dead Space.
Dead Space. Mm-hmm.
Alors, Dead Space est un jeu vidéo de type survival horror développé par Visceral Games et édité par Electronic Arts, commercialisé en octobre 2008 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 36. Alors le jeu est positivement accueilli par la presse spécialisée et après des démarrages un peu poussifs, il a recense plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Alors l'action de Dead Space se déroule en 2508. En ce début du 26e siècle, les ressources naturelles de la Terre sont pratiquement arrivées à épuisement et l'espèce humaine est partie à la conquête de l'espace pour trouver de nouveaux moyens de subvenir à ses besoins en matière première. Pour ce faire, des vaisseaux spatiaux d'un genre nouveau, les brise-surface, sont conçus pour apporter l'espace à la recherche d'exoplanètes exploitables. L'intrigue débute alors lorsque l'un de ces vaisseaux, l'UCG Ishimura, alors Ishimura ça veut dire village de pierre en anglais, en japonais, alors ça a son importance.
L'anglais a bien changé quand
ça même. Ça aura son importance dans l'histoire. Alors le plus connu des brise-surface, car le premier à avoir été construit, ne donne plus signe de vie. Toute communication semble avoir été coupée alors que l'Ishimura avait commencé à démanteler et exposer une nouvelle planète, Aegis 7. Une petite équipe technique, avec à son bord Isaac Clarke, le héros, est alors envoyée afin de rétablir le contact avec le brise-surface. chargé. Donc Isaac Clarke, c'est un ingénieur. Il est chargé de pénétrer à l'intérieur du bâtiment pour y réparer le système de communication défaillant.
Ok. Donc, donc ça, c'était le début de l'histoire. Alors, on va commencer par la question traditionnelle. Comment est-ce que vous avez connu ce jeu ? On va commencer par Guillaume. Alors, comment tu l'as connu, Dead Space ?
Oh, je sais.
C'était quand t'étais tout petit, mais...
Non. il me semble que... Oui, si, Dead Space, je l'ai connu. C'est un ami qui avait acheté le jeu à Mega Games à l'époque.
D'accord.
Et qui avait dit, ouais, je vais l'essayer et tout. J'avais pas eu l'occasion d'y jouer, donc après, quand j'ai eu ma 3.6, j'ai installé la démo du 2, j'avais fait « Ah, oh, c'est génial !» Et après, ce même ami m'a prêté son Dead Space, et du coup, j'y ai joué comme ça.
D'accord, tu l'as connu un petit peu sur le tard, du coup ?
Sur, ouais, plutôt le tard, bah, le 2 était déjà sorti, donc...
D'accord, ok. Tom ?
Alors moi, je l'ai connu par David, de Ailleurs Jeux Vidéo, qui est maintenant Gamecash.
David, si tu nous entends, on t'aime.
Voilà, David, du love. David, qui donc, à l'époque, faisait le jeu avec seulement le découpeur plasma. Et qui m'en avait tellement parlé que j'avais acheté le jeu.
D'accord, il t'avait convaincu, c'était à la sortie ?
Complètement, encore un bon choix, c'était un peu après la sortie, pas beaucoup.
Enfin, d'accord.
Au moment où lui, il y jouait, donc je suppose, soit à la sortie, soit très peu de temps après.
D'accord, Ferdi ?
Alors moi, j'avais pas de console, pas de PC à ce moment-là.
D'accord, tu vivais dans la rue ou pas ? Ou
non, mais
j'avais un carton ?
J'étais sur PS2 en fait, j'étais très, j'étais toujours sur ma PS2. Et un jour, j'ai eu un bon PC. Et donc j'ai dit, j'ai rattrapé mon retard, et comme j'étais fan de cinéma d'horreur et de science-fiction, bah, j'ai dit Dead Space, c'est pour moi. Quoi.
D'accord, voilà. Ok. Alors moi, je crois que je l'avais déjà raconté la dernière fois, c'était c'est la dernière fois où on avait fait Mirror Edge.
Ah oui.
Du coup, j'avais hésité entre les deux, j'avais pris Dead Space à l'époque, donc quasiment à sa sortie, et je regrette pas, parce que...
Tu ne regrettes rien.
Les survival horreur, c'est mon truc, c'est vraiment un de mes genres préférés. Alors, par quoi on pourrait commencer, du coup ? Est-ce qu'on commence par parler un petit peu du gameplay, par parler un petit peu...
Allez, va pour le gameplay.
Alors, comment ça se joue, Dead Space ?
Alors, Dead Space, ça se joue comme Resident Evil 4. C'est un jeu de tir à la troisième personne avec une caméra qui est, quand on vise, très très proche de l'épaule, histoire d'avoir un peu plus d'immersion, en fait.
D'accord.
On a des commandes, on va dire, comme n'importe quel TPS, c'est-à-dire que le stick gauche contrôle le personnage, le stick droit la caméra. Une touche pour viser, une touche pour tirer. Tirer sans viser, ça fait mettre des coups au corps à corps. Et le reste du jeu est composé de petits gimmicks, en fait. C'est-à-dire qu'on a un outil pour ralentir le temps, mais de façon localisée. Par exemple, un ennemi, un objet, une porte, voilà. On a aussi un module télékinétique.
Pour soulever des objets.
Je vous explique pas ce que ça fait. Voilà, ça fait de la télékinésie. Et l'intérêt en fait du jeu, c'est qu'on pour tuer les ennemis, il fallait les démembrer. Voilà. Parce qu'en fait, évidemment, il va y avoir des ennemis. Malgré le pitch qui inspirait vraiment une sûreté maximale, il se trouve qu'on va devoir se battre contre des formes extraterrestres nommées les nécromorphes. Et que les nécromorphes sont très résistants, mais
très violents.
Sont très violents, très résistants, rapides et agiles. Et brutaux, mais que ces nécromorphes peuvent être démembrés pour être rendus inoffensifs.
D'accord.
Donc c'est comme ça qu'on les tue. Et c'était le grand truc nouveau de l'époque, c'est que voilà, il y avait des vrais démembrements qui marchaient vraiment bien, une sorte de Metal Gear Rising 6 ans avant.
D'accord. Est-ce que tu as précisé qu'on pouvait avancer en tirant ?
Non, pas encore. Il est possible d'avancer en tirant.
Et c'était, alors ça paraît fou, ça paraît idiot maintenant en 2016, mais à l'époque c'était vraiment fou. On n'avait jamais vu ça. Le dernier qui avait tenté quelque chose, c'était Resident Evil 4, qui avait introduit la caméra à l'épaule, un petit peu plus dynamique.
Resident Evil 4 a plus ou moins inventé mal de choses. Le TPS d'horreur, c'est Resident Evil 4.
Si Resident Evil l'a inventé, je dirais que Dead Space l'a affiné.
Oui, tout à fait.
C'est un petit peu. Il l'a rendu plus souple, il l'a rendu plus pratique. D'ailleurs, ça a été repris dans tous les survival horror après Dead Space, quasiment, à part Resident Evil 5, mais lui, on ne le changera jamais. Ok, très bien pour le gameplay.
Petit détail supplémentaire. Bon, là on parle du premier Dead Space, mais dans les suites, en fait, le gameplay ne cessera de tendre vers l'action. On parle de Dead Space 2 où le personnage, par exemple, marchait un petit peu plus vite ou avait des déplacements plus souples dans les phases spatiales, puisqu'il y a des phases spatiales. Dans le premier, on pointait simplement vers où on voulait aller et avec une touche, on s'y dirigeait en sautant dans l'espace. Dans le deuxième, on pouvait donc s'y déplacer librement. Et dans le troisième, il y a eu l'ajout carrément d'une roulade qui fait passer le jeu plus ou moins pour un 15 fois en fait.
Oui, c'est quasiment ça, voilà. Effectivement. Alors, tu parles de Dead Space 2, donc il y a eu plusieurs autres jeux de Dead Space.
Tout à fait.
Donc, il y a eu le 2 qui est sorti, je crois, 2 années après. Un jeu qui s'appelle Dead Space 3 qui, je crois, n'existe pas.
Non, je ne connais pas.
Personne
ne l'a... J'ai parlé de la roulade, mais en vrai, je pense
non,
que le jeu
n'existe pas. C'était une invention.
C'était une démo technique.
Ouais, c'est ça.
Tout à fait.
On a eu un épisode de Rail Shooter sur Wii.
Qui était pas si mauvais
que ça. Qui était plutôt sympathique. Pour un Rail Shooter, en tout cas.
Une intelligence, ils avaient l'intelligence d'utiliser les cadres de caméra comme pour le premier Resident Evil, en fait.
Et c'était très, 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 plutôt joli pour de la Wii en plus. Il y a eu un épisode sur Xbox Live Arcade et PSN qui était une horreur
absolue.
C'était avec un dessin laid comme un pou et c'était des petits mini-jeux absolument insupportables. Imbuvable en fait.
C'était censé ajouter à l'histoire, mais.
Bon, ouais, entre le 1 et le 2, mais ça n'a aucune cohérence.
Voilà, ouais. Niveau cross-média, tu m'avais parlé d'un film.
Tout à fait.
Film d'animation.
Alors, il y a un film d'animation, je pense qu'on va en parler un peu tous les deux avec Jules. Film d'animation.
Jules Ferdi,
oui, excuse-moi, Ferdi. Non, mais... donc, Dead Space Downfall, si j'ai bonne mémoire,
ouais,
le film.
C'est ça.
Donc, petit film d'animation, un peu low budget.
Oui, c'est fait par la même équipe qui avait fait le film sur Griddick, les chroniques de
Riddick. Oui, mais plutôt sympathique et bien foutu. Voilà. Tu veux en parler.
Donc, voilà. Ça se passe donc sur les Chinois, si j'ai bonne mémoire. Mais ça suit une autre équipe et donc ça se passe avant le Dead Space premier du nom. C'était un bon film. Moi, je me suis bien amusé.
Tout l'univers de Dead Space, quoi. Et...
Voilà, c'était assez sympa avec ce petit côté lutte désespérée qu'on s'est perdu. Néanmoins, bon, l'animation aurait mérité d'être un petit peu mieux.
C'était du direct au DVD.
Oui, voilà, j'en souviens. Vraiment, ouais.
Mais c'était pas mal. Il y a eu aussi donc des comics qui sont vraiment excellents par Ben Templeton, qui est un dessinateur un peu trop talentueux, qui raconte donc l'histoire d'un des personnages que l'on retrouve brièvement via des audiologues, enfin des journaux audio, dans le premier Dead Space. S'il y en avait qu'un des deux à choisir, moi je choisirais plutôt les comics, parce que du coup, vu que Templeton étant le talent incarné, on a vraiment une qualité graphique incroyable.
D'accord. Alors, on va passer un petit peu au graphisme du jeu, parce qu'il me semble que le jeu est plutôt joli. Est-ce que Guillaume, tu veux nous en parler un petit peu?
Bah alors,
tu l'as refait récemment. Hein.
Enfin oui, je n'ai pas refait entièrement, mais...
Au moins une partie.
Alors, le graphique esthétique, on va dire, du coup, on est dans des couleurs très sombres. Noir, gris, marron. Et en fait, on a souvent les décors qui sont très peu lumineux. En fait, on se déplace un peu en mode lampe torche, c'est-à-dire que les décors sont un peu assombris. Enfin, voilà.
Comme un Splinter Cell, comme un
Doom 3.
Un Doom 3 plutôt.
Doom 3, ouais. Voilà plutôt. Mais voilà, pour y avoir joué il n'y a pas longtemps, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. En fait, notre personnage est bleu et jaune, donc ça donne un peu de couleur quand même. Mais un jaune un peu dégueulasse. Enfin,
le jaune de
film d'horreur. Quoi.
Celui d'ingénieur qui a été sur les routes pendant trop, trop longtemps.
Jaune Silent Hill 3.
Ouais, c'est ça.
Les personnages. Donc là, après, on a toujours une touche de rouge pour les ennemis, rosé, ouais. Mais beaucoup de sang, du coup, voilà. Donc, non, la direction artistique et le graphisme du jeu permet au jeu d'être en fait effrayant.
D'accord.
Enfin, on a souvent, justement, on arrive dans une salle, d'un coup, ça s'éteint et d'un coup, on a des trucs qui sortent. Par exemple, par les bouches d'aération, partout. Du coup,
Donc l'ambiance est top, elle est flippante à souhait.
Et il est encore flippant.
D'accord.
C'est très immersif.
Ça rappelle un peu des films comme The Thing, par exemple.
The Thing de John Carpenter pour l'aspect pour les nécromorphes, leur aspect.
Ressemble énormément. Bah, même un petit peu au final le pitch aussi, qui est un pitch où
tous les humains peuvent être contaminés.
Voilà, tous les humains peuvent être contaminés. Et puis en fait, c'était quelque chose que j'aimais bien avec The Thing de Carpenter, c'est que le pitch est basique en fait.
Oui.
Et comme Dead Space, c'est vraiment juste un vaisseau qui répond plus et les personnages vont voir. Ce qu'il en est, c'est pas comme par exemple Aliens où vraiment les Marines vont aller casser de l'alien et ils savent ce qui va arriver.
Là,
dans Dead Space,
là, on n'a qu'une information.
Je dirais que la meilleure façon en fait de jouer à Dead Space, c'est d'y jouer chez un pote qui nous fait juste y jouer sans qu'on en sache rien.
D'accord.
Et là, la peur doit être vraiment au rendez-vous.
Et donc, on avait parlé également de l'interface. Ça a apporté aussi sa petite révolution à l'interface globale de l'utilisateur.
Rien.
Il n'y a aucune interface.
En fait, il y en a une, mais elle est intradiégétique.
Voilà. Disons qu'elle est, on peut traduire, elle est intégrée au jeu.
Elle est dans la fiction du jeu.
Voilà.
Donc la barre de vie, elle est dans le dos, sur la colonne vertébrale du héros.
Voilà, c'est une espèce de barre qui se remplit ou qui se vide au fur et à mesure de la santé.
Ça s'appelle un rig en fait, et donc que les personnages dans la fiction du jeu
utilisent
pour vu qu'ils sont dans l'espace, pour savoir s'il y a un problème, si un personnage manque d'air, etc. Et donc ce sera notre barre de vie dans le jeu.
Et voilà. Le menu, donc tout pour changer d'arme, pour avoir nos informations et tout ça, c'est un hologramme qu'on active, que les personnages activent, une espèce de montre du futur.
Oui, une sorte d'Apple Watch avant l'heure.
Et donc on n'a pas de pause active. C'est voilà, que quand monstre, on regarde son menu, un monstre peut nous attaquer. On peut bouger la caméra d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bouger la caméra avec le stick droit pendant qu'on regarde le menu.
D'accord.
Ça donne vraiment, on peut regarder un peu derrière nous, un peu sur les côtés pour voir si un monstre arrive en continuant de changer nos armes et tout ça.
D'accord. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué dans Dead Space, un moment qui vous a soit vraiment fait peur, soit qui vous a fait dire putain, ce jeu il est trop bien.
Les premières apparitions des nécromanciens.
C'est ce que j'allais dire.
Tout à fait. Voilà, le début. Justement. Alors, moi, en fait, c'est réellement la sortie de l'hyperespace. Ouais. Au tout début. C'est vraiment le tout début. On a les crédits du jeu. On est donc en hyperespace et on voit à travers la verrière de notre petit vaisseau. Et à la sortie, justement, de l'hyperespace, j'étais à fond dedans, quoi. Donc, vraiment, toute l'intro, je la trouve maîtrisée. Et je pourrais la faire une cinquantaine de fois. D'accord. J'aurais peut-être un petit mot aussi pour l'ambiance sonore. Qui est juste excellente, qui est digne d'une production de DICE, quoi, mm-hmm. qui est vraiment incroyable. Là, pour le coup, Visceral.
Les musiques sont plutôt discrètes. Fond,
Il y a très peu de musique.
Ça tombe bien, ça s'appelle Visceral Games.
il s'appelait pas comme ça. Hein. Il s'appelait, c'était IA Sherwood Studio.
Oui, c'était un autre développement.
Ils sont appelés Visceral après le succès, justement, de Dead Space.
D'accord. Okay.
Voilà. Donc la musique, plutôt bien aussi.
Enfin, les thèmes, c'est pas de la musique.
Les thèmes vont bien en tout cas avec l'ambiance.
Oui, tout à fait.
Puis l'ambiance des sons, les sons des
décors, enfin, tout ça.
Les bruitages quand tu découpes la chair, etc. C'est...
Oui,
les...
En fait, c'était vraiment un jeu où, comme certains, par exemple, on a parlé de BioShock ou Rapture, c'était un personnage, entre guillemets, à part entière. Bah, L'Ishimura, c'est un personnage aussi. Le vaisseau est vraiment présent.
Un personnage à lui tout seul.
Voilà, c'est un personnage à lui tout seul.
D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des anecdotes sur le jeu ? On a encore un petit peu de temps.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les hommages au film en fait. Donc, The Thing pour les monstres, Alien pour le huis clos avec des monstres, etc. C'est surtout le début du jeu, Alien, le premier. C'est quand on ne sait pas encore ce qu'est la menace, quoi. Ouais. Quand on découvre les idéologues et tout ça. Et Event Horizon aussi pour l'aspect. Parce qu'on a oublié d'en parler, il y a. Même si. Spoiler. Fermez les
oreilles. Vas-y, vas-y.
Il y a. En fait, les monstres, on crée une espèce de monolithe en fait. Un espèce de monument extraterrestre qui contamine les gens. Et ça fait penser donc à Event Horizon avec le vaisseau possédé par une entité, etc.
D'accord, ok. Alors moi, j'avais noté deux autres anecdotes dont je vous avais parlé un petit peu. La première, c'est que le jeu avait été présenté sur la première Xbox en 2006.
Ce qui est assez fou.
Je l'ai vu tourner, il est vraiment magnifique. On partagera la vidéo d'ailleurs sur la page officielle de l'émission. Également, alors attention spoiler, les titres des chapitres en anglais, si on prend la première lettre de chacun des titres des chapitres, ça donne déjà la solution et le final finalement du jeu.
Tout à fait. Oui.
Est-ce qu'on le balance à l'antenne ? Non, on va peut-être laisser découvrir. Oui. En tout
cherchez-le.
Vous prenez la première lettre de chaque chapitre et ça vous donnera la solution finale de toute cette énigme.
Exactement.
Voilà. Donc est-ce qu'on conseille oui. J'ai l'impression
sans vraiment. Je le conseillerais même plus qu'un Resident Evil par exemple. Resident Evil, moi objectivement je conseillerais le premier et le 4,
le premier sur GameCube si vraiment
le premier GameCube et le 4, et là comme ça par exemple voilà pour une série qui est on va dire 8-10 jeux, 8-10 jeux principaux, j'en conseillerais que deux. Alors que Dead Space, il y a 3 jeux, enfin il y a 2 jeux, j'en conseille 2 quoi.
D'accord, GM aussi tu le recommandes
Tout à fait, En plus, ils vont rien maintenant, voilà.
Ils vont rien.
Le mois dernier, il était gratos sur Xbox.
Exactement, vous pouvez le trouver
Steam,
à pas cher.
Dalle,
le premier suffit à lui-même, le 2, c'est vraiment intéressant d'avoir fait le premier avant.
Le 2 est intéressant aussi, d'un certain point de vue.
Il est un peu plus
simplifié.
Un peu simplifié.
Genre les munitions, etc.
Il a le côté un petit peu hardcore de temps en temps. On pense à une scène avec un œil notamment, mais je n'en dis pas plus.
Pas trop.
Mais le jeu est très très bien également. Donc on le recommande.
Et on espère un nouveau Dead Space un jour.
On espère.
Peut-être cette année.
En fait, j'espère pas parce que.
Un vrai 4 avec l'ambiance du premier, ce serait cool.
Peut-être au quiz, on va pas s'attarder non plus.
Il nous reste 5 minutes pour nous faire un super quiz.
5 minutes pour le quiz. Alors, c'est un quiz aujourd'hui en 9 questions. Donc on n'oublie pas, vous me donnez votre nom avant de donner votre réponse, et on va faire donc 3 questions d'abord sur des jeux en kit. Vous allez me donner donc le jeu en kit auquel je pense, par exemple quand je vous dis un jeu de stratégie en kit.
Guillaume,
oui,
Total War,
tout à fait, un point pour Guillaume. Wow. Attention, un jeu de combat en kit.
Ferdi, Street Fighter 5,
tout à fait, point pour Ferdi. Attention maintenant, un jeu de tir en kit.
Guillaume, Destiny,
oui, tout à fait, 2 points pour Guillaume. Ok, alors maintenant on va faire un jeu, mais en fait non. C'est-à-dire que je vais vous donner un nom d'un jeu, mais qui en fait diffère, il va falloir trouver le jeu qui diffère. Je vous en donne un premier, un facile. Mario mais en bleu.
Guillaume Sonic.
Sonic. Tout à fait. Tu as oublié de dire ton nom, Julien. Le foot, mais en marrant.
Julien, oui. Mario Charge Football.
Non, c'était pas celui-là auquel je pensais. Ah, je te donne tout de même un demi-point. Le foot, mais en marrant.
Ferdi, Rocket League.
Tout à fait. Ouais. Ça fait donc, si j'ai bonne mémoire, 3 points pour Guillaume, 2 points pour Ferdi.
Et un demi-point pour
moi. Un demi-point pour Julien. Attention, Payday, mais en nul. On en parlait avant l'émission d'ailleurs.
Ferdi, oui. Battlefield Airline.
Tout à fait. Ouais. Ça fait 3-3 et un demi. Alors maintenant, on va finir par un petit classique que j'ai toujours fait. Je vous résume 3 jeux vraiment de façon mauvaise, très rapidement, et vous me trouvez lesquels. Un raton laveur vole des trucs.
Julien, oui. Sly Raccoon.
Tout à fait, ça fait 1,5 pour Julien. Nice. Balayage Pro. Assez dur celui-là.
Balayage Pro.
Tout à fait.
Balayage Pro.
Ou Balayage Simulator, si vous voulez.
Balayage Simulator.
Ah, comment il s'appelle
ça m'a l'air compliqué.
Guillaume, Super Mario Sunshine.
Eh non, c'était. C'était Dust Force. Un petit jeu indé qui était vraiment cool.
J'aurais pas su.
Et le dernier, un jeu pour speedrunners.
Ferdi, Super Meat Boy.
Non.
Julien, Dark Souls.
Non plus.
Je sais pas.
Vous cherchez trop loin, je pense.
Guillaume, Super Mario Bros.
Non plus. Effectivement, il y en a plein, mais attention, je vous donne l'indice, la réponse est dans la question.
Speedrunner,
Julien, oui, mais speedrunner. Voilà, tout à fait. C'était bien speedrunner.
Alors, ça nous fait 2,5 pour moi, ça nous fait que Ferdi a gagné, je crois.
Ferdi a gagné d'un point, si je veux voir. Félicitations.
Merci.
Tu es tombé pile la semaine où on n'avait pas de l'eau à distribuer, c'est dommage.
Non, mais c'est bien, j'ai pu passer Street Fighter 5 en kit.
Bon, du coup, Ferdi, tu as gagné le droit de nous donner un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, vu qu'il nous reste un petit peu de temps.
Un petit coup de cœur, c'est. Je suis en train de revenir à Shenzhen, le jeu en mode Battle Royale, King of the Kill. Donc, j'y joue là en ce moment, je passe mes nuits dessus.
D'accord.
Et c'est vraiment très bien parce qu'ils essayent de faire des mises à jour régulièrement. C'est un jeu en accès anticipé sur Steam. Mais ils font l'effort de se tenir près de la communauté, quoi.
D'accord,
ok.
Et un coup de gueule, c'est Blizzard avec Hearthstone, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils ont fait une nouvelle extension, ils ont donné plein de boosters gratos pour tout le monde, donc sa version jouée. Et puis finalement, si t'achètes pas, si tu mets pas encore 30€, tu peux pas jouer dans le nouveau mode, le mode standard, etc. Voilà.
D'accord. Okay. Un petit coup de gueule pour finir un nouveau.
On va peut-être faire la musique de fin.
Alors moi, petit coup de gueule léger sur le prochain Fire Emblem qui est absolument censuré. Il y avait des scènes très bof, peut-être un tout petit peu pédophile ou homophobe. Donc ça, c'est bien de censurer. Par contre, ils en ont profité pour changer apparemment 80% des dialogues pour vraiment les édulcorer.
Et mettre du vide aussi pas mal de fois. C'est fou.
Ça, très très bof.
D'accord.
Petit coup de gueule là-dessus.
Et du coup, on arrive à la fin de cette émission. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés.
Merci à tous.
La prochaine fois, on aura quelque chose de spécial à vous proposer, un invité exceptionnel, une émission un peu particulière. On vous en dit plus bientôt sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu.
Suivez-nous sur C'est la faute à la manette.
Voilà. Merci, à la prochaine.
Et on va
se
quitter en écoutant une musique de l'OST de Hotline Miami 2, super jeu avec Roller Mobster. À la prochaine sur Radio Campus Tour dans C'est la faute à la manette.
Bisous.
Et juste après, c'est Just Story.